les enfants de Chronos.
Nous vous avons parlé, la dernière fois, de la préhistoire du Val du Roanne, cette micro-région de 20 km² située à 20 km au nord-est de Crépy-en-Valois. Pendant le Paléolithique, quelques tribus d'hommes parcourent les étendues, glacées et désolées, de l'ère glaciaire, cet hiver de 1000 siècles, en cherchant de quoi subsister dans une toundra peuplée de mammouths, de rennes et de rhinocéros laineux. Rompant totalement avec la vie des hommes préhistoriques du Paléolithique, un immense bouleversement va toucher notre région et notre pays. Les archéologues l'appellent la révolution néolithique, même s'il s'agit davantage d'une lente évolution. Après la fin de la dernière grande glaciation, il y a environ 15 000 ans, le climat se réchauffe progressivement. La mer trouve son niveau actuel et la forêt apparaît. Vers 5200 ans avant notre ère, on assiste à un grand remplacement de populations, génétiquement totalement différents de leurs prédécesseurs, et d'ailleurs tout aussi différents de nous-mêmes. Des hommes venus du Proche-Orient, que l'on nomme les Danubiens parce qu'ils sont passés par la vallée du Danube lors de leur migration, apportent avec eux des inventions extraordinaires. L'agriculture, l'élevage, les villages sédentaires, la poterie, les fortifications. Ils s'installent dans notre région, surtout dans les vallées de l'Aisne et de l'Oise, et se mettent à défricher la forêt avec les herminettes en pierre polie. On appelait d'ailleurs cette région l'âge de la pierre polie. Leurs champs sur brûlis se couvrent de céréales comme l'orge, l'amidonier, l'engrain, le petit épeautre, mais aussi de pois, de lin et de lentilles. Ils ne chassent presque pas, mais élèvent des moutons, des bœufs et un peu de chèvres et de porcs. Le Val du Roanne attire visiblement ces hommes du Néolithique. Ils s'installent vers 4000 avant notre ère, au débouché du Roanne, dans la vallée de l'Oise, à Moru-Pompoint, comme leurs prédécesseurs du Paléolithique. Mais ils ne se contentent pas de tentes. Ils bâtissent un véritable village, composé de longues maisons pouvant atteindre 50 mètres de long, à structure de poteaux de bois, aux murs de torchis et aux toits de chaume. On a retrouvé à Moru les restes d'une de leurs maisons, avec des morceaux de céramique dont ils sont les premiers utilisateurs dans notre région. Ils abandonnent aussi à Moru, pour notre plus grand plaisir, des bracelets taillés dans le schiste et des colliers de coquillages. On sait qu'ils cultivaient les terres plus au fond du Val du Roanne. On a retrouvé leurs outillages de silex en plusieurs points de Roberval, sur les plateaux. Au bout de quelques années, faute de fertilisation, les terres sont épuisées et les agriculteurs doivent partir installer leur village ailleurs. Un millénaire plus tard, vers l'an 3000, l'évolution est fort lente à cette époque. Une tribu de Chasséens, originaire d'Afrique du Nord, succède aux Danubiens à Moru. Médiocres cultivateurs, les Chasséens préfèrent élever de vastes troupeaux de moutons et de chèvres. Ils abandonnent à Moru un peu de leur vaisselle de céramique. Une autre civilisation d'éleveurs leur succède à Moru vers 2700 avant notre ère. Ils sont surnommés par les archéologues les Seine-Oise-Marnes, du nom de leur vallée de prédilection. Ces hommes inventent une religion caractérisée par l'édification de monuments formés d'énormes pierres. Ils inhument leurs morts sous d'impressionnants monuments mégalithiques, les allées couvertes ou dolmens. Dans ces sépultures, la déesse mère, nourricière des vivants et protectrice des morts, est fréquemment représentée sous la forme d'un collier gravé surmontant une paire de seins. Les motifs sont généralement gravés près de l'entrée, dans le vestibule. De l'autre côté de l'Oise, sur la commune de Longueuil-Sainte-Marie, on a retrouvé une telle allée couverte, sorte de sépulture collective. On sait qu'au XIXe siècle, un autre dolmen a été retrouvé à Pompoint lors de travaux routiers. Les Seine-Oise-Marne dressent également de grosses pierres que l'on appelle aujourd'hui les menhirs et dont l'usage probablement religieux nous reste très mystérieux. Non, désolé de vous décevoir, Mais les menhirs n'ont jamais été édifiés par les Gaulois. Ils étaient aussi mystérieux pour eux que pour nous. Il subsiste encore près de Ruys un menhir, nommé la Demoiselle de Ruys, vestige d'un groupe de 4 mégalithes disparus. On peut voir quelques-uns de ces menhirs dans les environs, à Borret, en forêt d'Alate et ailleurs. À la suite de nouvelles grandes migrations, les agriculteurs-éleveurs du Néolithique vont à leur tour être remplacés par de nouvelles populations, qui renouvellent à 90% le patrimoine génétique des habitants de nos contrées. Venus des lointaines steppes de l'Europe de l'Est, ces nouveaux venus amènent avec eux le cheval domestiqué et le travail du bronze. L'agriculture va reculer grandement pendant l'âge du bronze, environ 2200 ans avant notre ère. On ne cultive plus que des clairières isolées les unes des autres. L'insécurité règne. Le bronze est avant tout utilisé pour fabriquer des armes. Les outils restent quant à eux confectionnés en silex. C'est l'époque de la première grande guerre européenne connue qui oppose autour du pont de la Tollens en Allemagne du Nord vers 1200 avant notre ère plus de 4000 soldats appartenant à un peuple d'Allemagne du Nord et à un autre peuple venant pour sa part des contreforts des Alpes. Les archéologues estiment le nombre de tués à plus de 750. Cette période laissera peu de traces dans le Val du Roanne, hormis une pointe de lance en bronze retrouvée il y a longtemps, ainsi que, peut-être, le nom même du Roanne, qui, comme le Rhône ou la ville de Roanne, signifie tout simplement « rivière ». L'âge du fer, qui succède à l'âge du bronze vers 800 avant notre ère, marquera profondément le Val du Roanne et toute la région. Les descendants des hommes de l'âge du bronze, qui prennent le nom de Celtes dans notre région et de Germains plus à l'est, découvrent l'usage du fer, plus solide et plus pratique que le bronze, et ne nécessitant pas le recours à de l'étain. Leur civilisation se développe vers 800 avant notre ère dans la région. Ils pratiquent la polyculture, mais élèvent peu de bétail. Vers 460 avant notre ère, les Celtes développent une brillante civilisation dans nos contrées, que les archéologues nomment l'Athènes, du nom d'une petite ville suisse où leur culture a été étudiée. Les défrichements sont de plus en plus nombreux. De vastes parcellaires sont créés. La région se pare de nombreux villages, de fermes isolées, de chemins de communication. Les premiers oppidums, ces ancêtres des villes, sont bâtis sur les collines ou les autres points aisément défendables. La particularité de notre région par rapport au reste de la Gaule est de connaître vers 250 avant notre ère une dernière vague de migration. Des Celtes germanisés, les Belgae ou Belges, s'approprient le nord de la Gaule, sans toutefois éliminer leurs prédécesseurs, mais en constituant plutôt une caste de chefs. À leur arrivée en Gaule, chaque tribu de Belges se taille un territoire, la civitas ou cité, divisée en petits pagis ou pays. Ces cités sont séparées de leurs voisines, soit par des no man's land formés de bois, de collines ou de marais, soit au contraire par des zones de contact et d'échange. Le Val du Roanne est ainsi partagé entre deux tribus de part et d'autre du ruisseau. La partie orientale, aujourd'hui Ruys, Saint-Germain et Noël-Saint-Martin, relève de la civitas des Suessions, tandis que la partie occidentale, aujourd'hui Roberval, Morupont-Point et Villeneuve-sur-Verberie, dépend de celle des Bellovaques. Dans l'état actuel de la recherche, on a localisé dans le Val du Roanne 24 sites de l'époque de l'Athènes pour 25 km², soit en moyenne un site au kilomètre carré. Lors de terrassements effectués sur le versant nord du vallon de Fosse, quelques vestiges datés de cette époque ont été mis au jour. Il s'agit d'une fosse tapissée de 3 dalles, aux alentours de laquelle ont été retrouvés quantité de vestiges de vaisselle typiquement celtique, des fragments de jarres, de pots, d'assiettes, tous brun gris, et une demi-meule tournante, également celtique. Il devait se dresser un peu plus haut une habitation gauloise. Dans le reste du Val du Roanne, on a aussi retrouvé des vestiges celtiques à Moru et au sommet du Mont Catillon, où les archéologues situent un tumulus, tombe de personnages importants surmontés d'un tertre. Il est possible qu'un chef belge du terroir s'y soit fait inhumer. Une légende attachée au Mont Catillon compte qu'il fut amené dans sa hotte par le célèbre géant médiéval mythique Gargantua. cette croyance populaire s'applique à des monuments très anciens de la région, comme le menhir néolithique de Ruys, qui aurait été ôté de sa chose par le bon géant, ou la queusse de Borée, qui aurait servi de pierre à affûter à Gargantua. Une importante voie de communication nord-sud, véritable autoroute du nord de l'époque, traverse le Val du Roanne. Cette voie est déjà très fréquentée à la fin de la Tène. On y a retrouvé des monnaies romaines datant d'avant la conquête. Tout le territoire est fortement structuré par cet axe longeant le Roanne et la limite de cité qui le suit. La totalité des habitations gauloises connues est située à environ 200 mètres de ces axes, jamais en bordure, comme si la recommandation antique d'éviter la proximité immédiate des voies romaines pour implanter les villas était déjà appliquée pendant la Tène. Ces habitats ne s'en éloignent cependant jamais, afin de ne pas rallonger inconsidérément les trajets. La voie franchit ensuite l'Oise au moyen d'un gué. Une fouille archéologique au lieu-dit Les Gros Grès, commune de Longueuil-Sainte-Marie, a retrouvé les traces d'un site lié au franchissement de l'Oise et au passage du terroir Suession au terroir Bellovac. Les âges des métaux transforment donc profondément le Val du Roanne et en font une campagne riante et peuplée.